indemniser les victimes de ce médicament fabriqué par le laboratoire Servier. C'est ce qu'a dit le ministre de la Santé, Xavier Bertrand. Il propose l'utilisation d'un fonds existant pour permettre une indemnisation rapide, fonds qui devra donc être alimenté par Servier. Il n'est pas question de vendre l'hôtel de la Marine à Paris, assure Nicolas Sarkozy. Une commission indépendante sera nommée pour déterminer sa meilleure utilisation, a dit le président de la République lors de ses vœux au monde de la culture. Le gouvernement avait lancé un appel d'offres auprès d'investisseurs privés, ce qui a suscité l'émoi des défenseurs du patrimoine.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Ah non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Non, attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une
m'avait
image.
Échappé.
Théâtre.
Laissez-moi
quoi.
Terminer, Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous demain dès 19h dans le grand hall de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter et le Théâtre du Rond-Point présentent jusqu'au 19 février Harper Reagan. Lucas Emleb cisèle en orfèvre le voyage initiatique d'une quarantenaire déphasée, avec notamment Gérard de Sarthe, Marina Foïs et Louis d'Olanxin.
Je ne peux tout simplement pas vous laisser partir.
Monsieur Barnes.
Elwood, je vous en prie, Harper, appelez-moi Elwood.
Je vous appellerai par votre prénom si je vous considérais comme un ami, vous êtes mon employeur.
Retrouvez Lucas Emleb le 27 janvier à 20h05 dans L'Humeur Vagabonde. France Inter.
La différence.
15h et pas tout à fait 5 minutes sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Yves de Morlaix, je dis bonjour à tous. Je regrette, là j'écoute l'émission de Daniel, mais je relève que Daniel lui-même, là, entretient cette confusion en parlant de boycott des produits israéliens. Il ne s'agit pas de boycott des produits israéliens, soyons clairs, il s'agit du boycott des produits israéliens fabriqués en territoire occupé illégalement. La notion est de taille. C'est là où le CRIF joue en prétendant une politique anti-israélienne ou une propagande antisémite, alors qu'il s'agit en fait d'une attitude anticolonialiste. Donc soyons clairs, les territoires sont occupés de façon illégale au regard des traités, des accords internationaux. Les Israéliens produisent des produits dans ces territoires et viennent nous les vendre en les prétendant produits israéliens. Et c'est là qu'il s'agit de boycotter. Voilà. Je vous salue et j'espère que vous rectifierez parce que l'importance de taille, elle est de nature à entretenir la confusion dans les esprits. Nous ne sommes pas anti-israéliens, nous sommes contre une certaine politique de l'État d'Israël. Voilà, merci, salut à tous.
Oui, monsieur Mermet, bonjour. Comme d'habitude, votre malhonnêteté n'a d'égal que votre mauvaise foi. Vous recevez un journaliste israélien, parfait idiot utile de la cause terroriste palestinienne, qui n'arrête pas de critiquer son propre pays, pas un seul journaliste en face pour essayer d'équilibrer le débat, comme d'habitude dans votre émission, pas un mot sur le Hamas, vos copains vous connaissez, le Hamas, c'est vos amis, le Hamas, n'est-ce pas? Pas un mot sur ces gens-là, pas un mot sur les 8000 roquettes qui ont atterri sur le territoire israélien avant cette opération plomb de sourcil. Alors de grâce, M. Mermet, quand vous faites venir quelqu'un, essayez au moins une fois dans l'année de mettre quelqu'un en face pour équilibrer le débat et un contradicteur. Vous seriez un tout petit peu plus crédible. Au revoir.
Bonjour Monsieur Mermet, à vous et à votre équipe, et surtout merci à Monsieur Gideon Lévy. C'est vraiment un baume au cœur d'entendre sa parole. Enfin, une autre version de la vraie politique d'Israël, la version donnée toujours par Monsieur Pitkenkrout et Lévy, entre autres. Un homme qui parle à l'intelligence des hommes, sans manichéisme ni aveuglement, ça fait vraiment du bien de l'entendre. On comprend un peu mieux la situation lorsqu'on apprend qu'aucun journaliste n'a le droit de passer à Gaza depuis plus de 3 ans. Les situations s'éclairent si on en avait encore besoin. Alors merci encore à M. Lévy. Bonne continuation pour cette leçon d'humanisme.
Dominique Nikonik, venu du FMI, venu du FMI, avec le PS ses amis pour gérer le pays. Pour gérer le pays, pour que la victoire soit plus belle, les financiers ont la part belle, les financiers ont la part belle. Il va rassurer les marchés et ses méthodes, on les connaît. Oh oui, on les connaît. Dominique Nikonik, venu du FMI,
Samedi 15h30, il y aura le repère de Montaurouge et Hervé aux Estérés du Lac. 15h30, samedi. Ciao, vive, portez-vous bien.
Salut à Daniel et salut à tous les AMG. Je viens de voir sur le net que l'agence de notation Moody's vient de descendre la note de la Tunisie. Elle passe de BAA2 à BAA3. Alors quand on nous explique que le libéralisme est souvent le synonyme de liberté, apparemment on aurait quand même l'impression qu'il s'accommode très très bien des dictatures et beaucoup moins des révolutions populaires. Au revoir.
Judicieux. Judicieux, ce message et les autres aussi. Merci à tous pour ces messages que vous laissez chaque jour dans la boîte vocale de la Basse. J'y suis au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, Lumumba. Lumumba. En prononçant ce mot, je me demande combien êtes-vous à donner un sens à ce mot. Peut-être les plus anciens d'entre vous. Les Africains, peut-être, dont, parmi vous. Les Belges, si les Belges nous écoutent. Mais je pense assez peu, quand même, d'auditeurs savent qui fut Patrice Emery Lumumba. Eh bien, il y a 50 ans, le 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba était assassiné à côté de l'actuelle ville de Lubumbashi, au Katanga, à 60 km de là. Lubumbashi, la capitale actuelle du Katanga, n'a rien à voir, contrairement à ce que nous avions cru nous-mêmes avec Guy, avec le nom de Lumumba. Un immense bras africain de la rupture avec la domination coloniale. Alors vous allez dire, mais oui, bon, d'accord, mais enfin, nous, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est la Tunisie. On voudrait que vous nous parliez encore de la Tunisie. Eh bien, vous allez voir que dimanche, avec Guy, on était à Bruxelles, où il y avait un rassemblement pour commémorer l'assassinat, la mort de Patrice Lumumba. Ben, vous allez voir qu'il y a un certain écho entre la Tunisie et entre Tunis et Bruxelles ces jours-ci. Il y a un écho de la colonisation. En finira-t-on jamais avec cette colonisation, ce néocolonialisme, ce post-colonialisme dont on voit encore l'inconscience sa place dans l'inconscient, au moins dans celui de Michel Alliot-Marie, par la déclaration absolument stupéfiante qu'elle a faite de vouloir soutenir un dictateur qui était en train de tirer dans un peuple insurgé, proposer l'appui, le secours de la police française. C'est un impensé ou un refoulé colonial à tous les coups qui s'est manifesté là. Eh bien, on va voir que 50 ans après, chez nos voisins belges, il y a encore une guerre des mémoires autour de la mort, de l'assassinat de Patrice Lumumba et autour de la colonisation de l'actuel Congo par la Belgique. C'est une longue histoire. Aujourd'hui, on commence avec l'anniversaire de cette mort. Dans les jours qui viennent, on continuera toujours avec Lumumba. Et puis après, on évoquera la figure de Léopold II, un drôle de roi, un étrange personnage, pour le moins ambigu. Voilà où nous allons aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Coucou à vous tous. Le prochain café repère de Savigny-sur-Orge aura lieu ce mercredi 19 janvier à 20h30 au restaurant Le Jasmin, rue Joliot-Curie, à gauche sur le parking de la gare, juste avant de passer sous le pont. Nous avons intitulé le thème de la soirée « Banque, argent, éthique ». Vaste programme, me direz-vous. Alors, venez nombreux. Salut.
Oui, bonjour. Ben vraiment, on est vraiment tous des cons, hein, parce que personne n'avait compris que Michel Alliot-Marie voulait dire tout le contraire de ce qu'elle a dit. Ces politiques, franchement, ils disent noir, nous on comprend noir, mais en fait, ils voulaient dire blanc, et nous, on est vraiment trop bêtes pour comprendre la subtilité de langage qu'ils emploient. Vraiment, vraiment, c'est terrible.
Pourquoi de la part de la France cette collaboration, cette protection, ce silence vis-à-vis des dictatures et dictateurs de tout poil? Depuis 25 ans que nous permettions à Duvalier de couler des jours heureux, des jours paisibles. Depuis 25 ans que nous privions le peuple haïtien d'un procès juste qui aurait permis aux nouvelles générations de savoir qu'ils avaient eu un dictateur criminel qui ne pouvait pas être oublié. Et il y a quelques jours, c'était notre aide policière que nous proposions à la Tunisie pour éviter la chute d'une dictature. Moi, j'ai un petit peu honte d'être français. Allez, à bientôt, salut.
La République du Congo a été proclamée. Et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants.
Est-ce un héros? Est-ce un dictateur? Qui êtes-vous, monsieur Patrice Lumumba?
De regrettables événements se sont produits à Léopoldville. Il importe à présent que le calme revienne dans les esprits.
Nous allons commencer une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail.
Derrière ces barricades, le diable en personne. Le personnage dont tout le monde continue à avoir peur, M. Lumumba. Lumumba, est-ce un fou? Est-ce un héros? Est-ce un dictateur? Qui êtes-vous, M. Patrice Lumumba?
Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais d'un de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Vantil, Patrice Lumumba, un géant dormant.
Flight number 2, arriving from New York.
Je suis Antoine Tsitungu Kombolo.
Bruxelles.
Écrivain, enseignant.
Place du Trône.
Par rapport à la mémoire du Congo.
16 janvier 2011.
Mémoire coloniale, mémoire post-coloniale. Mémoire belgo-congolaise, mémoire congolaise.
Alors nous revoici au pied de la statue équestre de Léopold II, fièrement arc-boutée sur ses étriers. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il tournait le dos à son palais pour faire face à son banquier. C'est ce que nous expliquait Lucas Catherine, ouais. Son banquier qui avait financé la conquête du Congo en son nom propre et pour ses intérêts propres, en tout cas.
Oui, au-delà de l'anecdote, c'est ici que l'aventure coloniale de la Belgique a commencé. Une aventure qui a une configuration personnelle, des objectifs mercantiles, même si par la suite, on a pu dire que c'était une mission civilisatrice, il faut mettre des guillemets. C'est pour cette raison que le collectif Mémoire coloniale organise cette cérémonie ici, où tout a commencé. Nous commémorons aujourd'hui le 50e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, l'homme qui, tout au long de sa vie, a incarné le rejet d'une lecture complaisante de l'histoire du Congo, l'homme qui a incarné la volonté de bâtir une nation congolaise, arc-boutée non plus sur les tribus, mais sur la citoyenneté, dans le sens le plus républicain du terme. Et il faisait donc ombrage aux ambitions de la finance internationale et aux stratégies de la géopolitique. Toujours les mêmes d'ailleurs.
Alors vous parliez de la mémoire de Patrice Lumumba. Pour résumer, En quoi la perpétuation de la mémoire de Lumumba est importante aujourd'hui pour la Belgique, mais aussi pour le Congo?
Elle est importante pour l'Afrique, pour la Belgique et pour le Congo, parce que c'est un drame fondamental. C'est un crime fondateur. Voilà. En fait, le crime commis par la Belgique au Congo avec des comparses congolais a été le socle du Congo post-indépendant. Donc, quelque chose de déjà souillé. Et revenir sur ces drames, c'est remettre les choses en perspective et reprendre un bon départ. Voilà.
Là, je crois qu'on vous appelle pour aller faire un discours pour l'ouverture de la marche. Et je vous propose qu'on se retrouve après pour continuer cette conversation.
Ok, merci.
Ce n'est pas par goût de provocation que nous sommes ici. Ce n'est pas pour accomplir un exploit des potaches, mais c'est pour témoigner de deux choses importantes. La première, c'est la fin de l'impunité. Ceux qui ont tué Lumumba, ceux qui ont trempé dans le complot qui a abouti à l'élimination du père de l'indépendance congolaise, eh ben, il y en a encore une bonne part qui est en vie. Faisons en sorte qu'ils ne puissent pas mourir tranquillement dans leur lit. C'est le sens de la démarche de la famille de Lumumba, sa famille que nous soutenons à bout de bras. Qu'est-ce que je retiens de l'héritage de Patrice Emery Lumumba? Bien sûr, il y a le discours des ruptures du 30 juin 1960, mais Lumumba n'est pas seulement un mort qui nous hante. Lumumba n'est pas seulement l'homme du discours du 30 juin. Lumumba, c'est un projet des sociétés, c'est une utopie, c'est un rêve pour les Congolais, pour l'Afrique, pour l'humanité entière. Souvenez-vous que pendant très longtemps, le 30 juin 1960, il n'y avait aucune cérémonie sur toute la superficie du Congo. Et dans le même temps, on fêtait le 24 novembre l'anniversaire de naissance d'un homme qui se disait providentiel. Voilà comment on a torpillé la mémoire de Lumumba au Congo. Et à l'extérieur, elle n'a pas cessé d'être torpillée, puisque des griots aux yeux bleus dans ce pays ont chanté les louanges d'un certain Joseph Désiré Mobutu, considéré comme l'homme incontournable et qui est resté 32 ans au pouvoir, nous a légué un gâchis monstrueux. Je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps pour dire que tous ceux qui se sont opposés à la volonté de la finance internationale, tous ceux qui ont été en marge des subtilités des maîtres de la géopolitique, eh ben, ils sont entrés en collision avec des forces qui ont abouti à leur élimination. Voilà pourquoi il est légitime de saluer cet héritage immense que nous avons à travers Patrice Emery Lumumba, un géant de l'histoire. Merci.
Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instants enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France on accepte une fillette violée, et qu'en France on accepte un malgache supplicié, et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de tout son poids de mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. Voilà quelques lignes d'Aimé Césaire, discours sur le colonialisme pour commencer cette évocation de Patrice Lumumba. Vous avez entendu, on est à Bruxelles, on est place du Trône, avec ce collectif Mémoire coloniale autour d'Antoine Chitungu, l'historien. Et on a tout de suite évoqué cette guerre des mémoires qui est toujours vive en Belgique, autour de cette figure de la colonisation en général et autour de cette figure de Patrice Lumumba. Qui a tué Patrice Lumumba ? La Belgique est hantée par cette question depuis 50 ans. Il y a eu des éclaircissements grâce au travail des historiens, aux témoignages accumulés, mais c'est toujours pas très clair. Il y a quelques années, le gouvernement belge a reconnu la responsabilité morale de la Belgique dans ce meurtre, mais c'est insuffisant aux yeux de ces de gens comme ceux qu'on vient d'entendre, aux yeux des enfants, des descendants de Patrice Lumumba qui entendent très bientôt entamer des poursuites contre des personnalités belges de l'époque, mais toujours vivantes pour certaines, qui ont trempé, on va dire, dans cet assassinat. Qui a tué Patrice Lumumba ? C'est le titre d'un livre publié en 1999 par Ludo De Witt, un chercheur belge qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit à l'époque parce que certaines personnalités encore vivantes belges étaient mises en cause dans cet assassinat. Il y a bien sûr les Congolais eux-mêmes qui étaient présents, qui ont trempé aussi dans cet assassinat. Il y a la CIA qui a participé à cet assassinat. On a des documents déclassés et des témoignages qui le prouvent. Mais c'est toujours là, c'est toujours vif. Et la décolonisation, au moins la décolonisation des esprits, n'est pas entièrement accomplie. Et c'est une hypothèque très lourde, à la fois pour les Belges, mais surtout probablement pour les habitants de la République démocratique du Congo. Sans doute que ces difficultés dans lesquelles ils sont, cette misère, ce chaos, a pour cause, entre autres bien sûr, mais entre autres, cette mémoire volée, cette mémoire détournée, et comme on le disait à l'instant, ce crime fondateur. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Lumumba, un géant dormant.
Indépendance, tcha tcha, Tozoumiye, Otipoisa, tcha tcha, Toubakini, au table rond.
Que pensez-vous de la mort de Patrice Lumumba ?
ORTF.
Lumumba, il est mort comme tout le monde. Hein.
23 février 1961.
Et je m'attendais à cette question-là, mais vous comprenez bien que je ne peux pas y répondre.
Oui, mais à votre avis, c'est une bonne, mauvaise chose, regrettable ou non ?
Je ne peux pas, je ne peux rien dire. Je suis étranger ici.
Comment ça, vous êtes étranger ici ?
Ben oui, je suis belge, enfin, je suis tout de même étranger dans ce pays.
De la mort de Patrice Lumumba, je ne pense rien du tout. C'est un crapuleux de la première catégorie.
Et j'ai retrouvé Manuel, ce manifestant anti-lumumbiste rencontré précédemment.
Alors, Manuel,
oui.
Vous êtes content maintenant ?
Oh, et pourtant, je suis tellement content. Pas mal, hein?
Hein?
Je suis tellement content.
Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort?
Ouais. Mais vous me voyez rigoler même, parce que je suis tellement content.
Mais ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça?
Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Hein? Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme qu'on mange les chikwangs.
Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les Lumumbistes?
Avec les Lumumbistes? Si, dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tout ça à Kwanga, alors on devrait le couper les oreilles. Et aujourd'hui, on coupe l'oreille, demain, on coupe les bras, le lendemain, on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on les prend, on les met comme les statues, les squelettes.
Alors voilà un paysage congolais ici, mais je pensais que c'était un village. On n'a pas grand-chose à voir. Les restes d'une case là, quelques branches, et puis un peu plus loin, on dirait une stèle, on va s'approcher par là. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, professeur ?
Je m'appelle Guillaume Kongolo, j'enseigne à l'université de Mbashi, je suis historien.
Comment on en est arrivé là ? Est-ce que vous pouvez remonter un petit peu dans le temps, nous dire un peu qui était Patrice Lumumba ?
Patrice Lumumba, c'était un homme, on peut dire, ordinaire au départ, qui est né dans le Sankuru, actuellement le Kasaï, qui cherche à faire ses études, mais il a difficulté à pouvoir décrocher un certificat d'école primaire. Et il se décide quand même de se déplacer et arriver jusqu'à Kisangani, qui sera son fief. Et Kisangani, où il pourra être employé dans les services postaux. Et c'est ce service qui lui permettra de faire une formation. Parce qu'il va l'envoyer en 1947 à Léopold de Ville, actuel Kinshasa, pour suivre une formation postale. Et c'est après cette formation qu'il rentre à Kisangani, décidé de pouvoir lutter contre les injustices. Je vous rappelle ici que la Belgique était une colonie qui, dans la méthode de gestion coloniale, était proche de l'apartheid d'Afrique du Sud. Personne ne l'ignore, c'était une méthode mi-paternaliste, mi-raciste. Et Lumumba s'évertuera à condamner ou à dénoncer les attitudes de colons belges, des attitudes méprisantes envers les Congolais. Au départ, il milite dans ce sens-là. Ce n'est pas encore les visées politiques.
Oui, mais là, il n'est pas tout seul. Je suppose que c'est un courant qui est en train de monter à travers tout le pays.
Oui, tout à fait. C'est un courant qui est en train de monter à travers ceux qu'on appelle les évolués, mais pas tous, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque déjà, le gouvernement belge va recruter certains de ces évolués qui vont devenir des indicateurs des services secrets belges. Il y a d'autres aussi qui vont militer pour l'assouplissement des conditions de vie de leurs frères congolais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après le retour de Congolais qui étaient partis assister dans la Deuxième Guerre mondiale avec la force publique, il ne faut pas oublier que ce Congolais, quand ils retournent, ils sont très vindicatifs. Ils ont vu les Noirs qui avaient d'autres conditions que ceux qu'ils connaissaient au Congo. Ils ont vu des Blancs pleurer devant eux parce qu'il a été blessé, lui laisser courir. Donc il y a eu quand même des clics dans la tête de ces Congolais qui sont revenus de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils ont répandu dans la population, et ils sont vindicatifs, ils cherchent à ce qu'on puisse assouplir de plus en plus les conditions d'existence qui étaient mauvaises à l'époque de Noirs congolais. Donc il y a un courant de prise de conscience et qui est aussi alimenté, il faut le dire, par les divisions au niveau même de la classe politique belge, des Belges qui se font des amis parmi les évolués noirs et qui les encouragent à faire certaines revendications.
1956, l'avion en provenance de Léopoldville vient de se poser. Parmi les passagers, 16 notables et évolués congolais prennent contact pour la première fois avec le sol de la métropole. Invités par le ministre des colonies, ils feront un séjour d'études d'un mois en Belgique. Un mois au cours duquel l'occasion aura été donnée à 16 Congolais de vivre au milieu de nous, de nous voir travailler, éduquer, nous distraire et nous réjouir, nous, Belges de la métropole.
C'est ça. C'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, parmi les colonisés par les Belges ou par les Français, pour se limiter à cette zone-là, un certain nombre sont même venus se battre dans les armées ou dans la résistance. Ce sera le cas de certains Algériens qui auront, aux côtés des Français, lutté contre l'occupant allemand et qui, rentrés chez eux, trouveront que le Français ressemble assez à cet occupant-là.
Et c'est la même situation pour les Congolais. Oui. Les Congolais de la force publique vont effectivement connaître certaines conditions de vie d'Européens. Et tout de suite, il y a un déclic dans le cerveau. Ils se disent, mais en fait, ce que nous vivons est inadmissible. Il faut qu'on assouplisse nos conditions.
De regrettables événements se sont produits à Léopoldville.
RTB Belgique.
Chacun de nous ne peut que les ressentir douloureusement.
4 janvier 1959.
Il importe à présent que le calme revienne dans les esprits. Depuis longtemps, il est prévu que le gouvernement définira devant le Parlement belge l'orientation de sa politique africaine. Le ministre du Congo belge et du Rwanda Urundi vient de confirmer devant les chambres qu'il fera cette déclaration incessamment.
Alors, dans la fin des années 50, on retrouve Lumumba et les choses se précipitent.
Oui, les choses se précipitent. Il faut d'abord dire que lorsque Lumumba retourne de Kinshasa, et à la suite de tout ce qu'il a vécu comme injustice, il s'est fait le porte-parole, on peut dire, de la communauté noire du Congo. Ce qui fait qu'il publie très souvent dans les différents organes de presse des articles où il dénonce ici, où il revendique là-bas. Et il fait ce travail-là jusqu'en 1955. Ça le fait remarquer. Ça le fait remarquer, et si bien qu'il y a comme une opposition d'une certaine classe belge, dirigeante, contre Lumumba. Mais les choses s'empirent lorsque le ministre des colonies, Bousséré, étant passé par Kisangani, et encore après le roi de Belge, vont accorder à Lumumba une entrevue. Et pendant ces entrevues, il va dénoncer les attitudes racistes de certains colons de Kisangani qui se verront même permutés. Cela va créer une animosité contre Lumumba, et ce qui fait que tout de suite, il est fiché. C'est quelqu'un qui, depuis 1956, est déjà suivi par les services secrets. Tout ce qu'il rapporte dans les bars ici est rapporté aux autorités belges.
Alors, par la suite, le mouvement d'indépendance s'accélère, se met en route. Et là, on a, dans l'esprit des Européens, l'idée qu'il faut passer vite à l'indépendance. Hein. Il y a la fameuse phrase du général de Gaulle.
De Gaulle, en 58.
Dit, en 58, qui dit, s'ils veulent leur indépendance, qu'ils la prennent.
Ouais.
Ceux qui voudront leur indépendance l'auront aussitôt.
Voilà.
Donc, comment juger
à quelques mètres de Léopoldville, vous vous rendez compte, il est dit à Brazzaville.
Voilà.
Et Brazzaville et Léopoldville, c'est pratiquement une même ville. Donc tout cela, ça booste davantage l'éveil des consciences que les Noirs peuvent finalement acquérir l'indépendance et pouvoir diriger le pays eux-mêmes. Effectivement, ça accélère la volonté de pouvoir accéder à l'indépendance à ce moment-là. Et il faut se rappeler que c'est à la même date que le parti MNC, que Lumumba va diriger, est créé. Donc, effectivement, à partir de 1958, il y a comme un coup d'accélérateur qui est donné vers l'indépendance.
Ce matin, 30 juin à 11h, le continent africain a vu naître un nouveau pays indépendant.
RDOM.
Désormais, il faudra rayer des cartes et des atlas le nom de Congo belge et le remplacer par celui de République du Congo.
30 juin 1960.
Dénomination choisie par le nouvel État souverain. De l'ensemble des autorités politiques du nouvel État indépendant et hautes personnalités de la nation tutrice belge a été parassé par messieurs Eskens et Patrice Lumumba, premier ministre belge et congolais, la déclaration d'indépendance du Congo belge. Et déjà, maintenant que la nuit tombe, l'on se prépare dans les cités africaines aux nombreuses réjouissances de la nuit prochaine et dans les nombreux bars, au son des merengues, des cha-cha-cha et des rumba, des milliers de vers se lèveront pour saluer le rêve populaire devenu aujourd'hui, 30 juin 1960, une réalité, le mot magique que l'on voit partout imprimé sur les cravates, les pagnes, les chemises aux couleurs vives, indépendance.
Indépendance ! Indépendance !
Allez !
Nous sommes nés de nouveau, allez, à notre soif, à l'Afrique noire.
Yala,
Kenda na putu, kasi na Kongo na tika nani Tata wanga ina mama wanga, baleli mingi na kenda te Poporinga ina kenda na putu, kasi na Kongo na tika nani Tata wanga ina mama wanga, baleli mingi na kenda te Mabanzo maleki mingi o na Kongo Mawa maleki mingi o na Kongo Mabanzo maleki mingi o na Kongo Mawa maleki mingi o na Kongo
Eh eh eh
Oh tio boe
Eh 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 na Kongo
Hey 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 na Kongo Hey 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 na Kongo
Donc, 1960, l'indépendance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour Patrice Lumumba ?
Bon, sitôt qu'on proclame l'indépendance du Congo, bon, disons, vous savez, le jour même du 30 juin, il y a les deux discours qui étaient prévus. Et les deux discours qui sont prévus, c'était le discours du roi des Belges et le discours du président Kazavubu.
L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II
30 juin 1960
et continuée avec persévérance par la Belgique.
Roi Baudouin de Belgique.
Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. Notre pensée à tous doit se tourner vers les pionniers de l'émancipation africaine et vers ceux qui, après eux, ont fait du Congo ce qu'il est aujourd'hui. Ils méritent à la fois notre admiration et votre reconnaissance.
Mais ce qui s'est passé, peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas le contexte de comment et pourquoi Lumumba va prononcer un discours qui n'était pas prévu. Normalement, dans les habitudes administratives ou politiques, Lumumba était premier ministre de l'État congolais. Donc c'est lui qui devait normalement concevoir le discours que le président congolais, Kazavubu, devait lire. Donc au Parlement, quoi, devant le roi des Belges. Mais il s'est fait que les discours a été rédigé ailleurs. Et plus grave, on n'en a pas fait lire le Premier ministre, ni un membre de son gouvernement. Et on lui a apporté une copie par un de ses proches. Et tout de suite, quand il lit les discours, il pique une crise de colère. Il dit, c'est pas possible. Comment est-ce possible qu'on puisse prononcer un tel discours qui est pratiquement dans l'ordre de la continuation du paternalisme. Donc le discours du roi de Belge est pratiquement paternaliste et celui de Kazavou ne donne pas une réponse à ça. Alors moi, je dois faire un discours.
Donc voilà. Mais là, il réécrit. Donc c'est un discours très radical.
Oui,
c'est un discours de rupture.
Plusieurs le disent. Et ce qui choque la plupart des personnes, c'est que Lumumba, lorsqu'il commence son discours, il ne commence pas par les adresses protocolaires qui essaient un peu de nominer les autorités qui sont dans la salle.
Majesté, ministre,
non, il commence directement par ses compatriotes, chers compatriotes. Donc il s'adresse aux Congolais. Et il ignore pratiquement. Donc c'est comme s'il considérait que le président Kazavubu a fait un discours aux Belges et aux étrangers qui étaient là. Et que lui venait faire un discours aux Congolais. Ce qui a déjà choqué.
La République du Congo a été proclamée.
30 juin 1960.
Et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants.
Patrice Lumumba.
Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte. Une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voies honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que notre fils polié, au nom des textes prétendument légaux, qui ne faisait que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle, inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais du de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain.
Et lorsque l'on entend les contenus du discours qui est dénonciateur de certaines pratiques coloniales de la période, tout de suite, ça énerve beaucoup de personnes. Mais j'ai toujours dit que, contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas ce discours-là qui est à la base de sa mort, ni du dérapage qu'il y a eu. Lumumba aurait fait ce discours, ou ne l'aurait pas fait, il serait tout de même mort.
Son sort était scellé.
Ouais. Lorsque vous suivez tout le cheminement des services secrets belges contre Lumumba, les transferts qui s'est fait entre les services secrets belges et les services secrets américains en février 1960, le sort de Lumumba était entendu.
D'abord, pendant que M. Lumumba prononçait son discours,
RTB,
la consternation allait croissant dans les milieux belges et internationaux.
30 juin 1960.
Du côté belge, on ne cachait pas de l'irritation devant ce que l'on considérait comme une incartade difficilement admissible. Certains observateurs en venaient à se demander qu'il ne serait pas préférable que le roi rentre immédiatement à Bruxelles.
Indépendance,
et la tombe,
table ronde,
la cassombe,
indépendance. Mon nom est Ludo De Witte. Donc, j'ai écrit un livre sur l'assassinat de Lumumba, un livre sur les enjeux géopolitiques de la crise congolaise, qui a été publié en néerlandais. Et maintenant, je prépare un livre sur l'ascension de Mobutu. Donc, un livre essentiellement axé sur les années 64-65.
Il aura passé sa vie, cet homme-là, Ludo De Witte, que nous rencontrons à Louvain. Il aura passé sa vie sur cette histoire et sur cette mémoire et sur cette guerre des mémoires. Mais pourquoi donc? Est-ce qu'il ne faut pas oublier? Est-ce qu'il n'y a pas un temps pour l'oubli? Non, dit-il, ce drame signifie bien plus qu'une vieille histoire morte et oubliée. C'est, écoutez bien, un exemple ahurissant de ce dont les classes dominantes occidentales sont capables dès qu'elles se sentent touchées dans leurs intérêts fondamentaux. Un assassinat devient alors un moyen pratique, une solution possible. Le meurtre de Lumumba, de Rosa Luxembourg, de Félix Moumier, de Malcolm X, tout comme les massacres de Guernica, de Buchenwald, de Dresde, d'Hiroshima ou de My Lai, sont les expressions d'un système qui font de l'homme un loup pour l'homme. Et voilà la foi de cet homme qui travaille en chercheur extrêmement rigoureux depuis des années sur l'assassinat de Lumumba et qui voit là l'acte d'un système et pas seulement un fait navrant, mais qu'il faudrait oublier. Il ne faut pas oublier parce que des actes comme celui-là, eh bien, ils se reproduisent bien évidemment à chaque fois que la classe dominante se sent attaqué dans ses fondamentaux. On était avec Guillaume Kongolo à Chilatembo, à côté de Lumbumbashi. Et là, donc, voici le point de vue, l'analyse que fait Ludo De Witte sur cet assassinat après qu'on ait entendu ce discours qui est un chef-d'œuvre de la rupture des mots et de, avec un souffle civilisationnel formidable. Ludo De Witte.
Ben, Lumumba a été assassiné parce que c'était un nationaliste conséquent ou radical, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait une décolonisation du pays à 100%. Il était prêt à travailler avec l'Occident, avec les Belges, avec les entreprises coloniaux, mais il faut finir avec tous les super profits et tous les avantages exorbitants dont jouissaient les pouvoirs coloniaux. Et c'est pour ça qu'on voulait l'éliminer, pas seulement les Belges, mais aussi les Américains, parce que les Américains craignaient fort que si lui allait réussir ce projet nationaliste de développer le pays dans l'intérêt de la population, ça aurait des conséquences sur tout le continent. Le Copper Belt, donc la chaîne de cuivre qui va du Congo, de la Rhodésie jusqu'en Afrique du Sud, ça allait ébranler un peu la situation en 60, un peu partout. Il avait encore les colonies portugaises qui seraient affectées. Il y a la Rhodésie qui n'avait pas, toujours pas son indépendance. Il y avait le système d'apartheid en Afrique du Sud qui allait être touché. Donc on voulait éviter ça. On l'a déposé, mais elle restait populaire. Et début 61, ses partisans ont commencé une offensive militaire pour reconquérir le terrain. Et à ce moment-là, on voulait en finir. On avait peur qu'il revenait sur la scène politique. On l'a transféré au Katanga, sur ordre du ministre des Affaires africaines belge.
Alors, il faut rappeler qu'il y a eu une partition. Au moment de l'indépendance, il y a eu une partition du Congo.
Oui, donc en fait, les Belges avaient sécessionné le Katanga. Du reste
qui était,
pays.
Qui était la province la plus riche.
Absolument.
En ressources, absolument. En cuivre notamment.
Absolument, et le but était exactement de saigner à mort le gouvernement central, quoi, en lui privant des ressources, de toutes les richesses katangaises. Et donc là, les Belges étaient les patrons. On a envoyé Lumumba là, sur ordre du ministre belge des Affaires africaines. On l'a déposé là sur la partie belge de l'aéroport, parce que l'autre partie était dans les mains des Nations Unies. Et sur la partie belge de l'aéroport, il a été pris en charge par des officiers belges qui commandaient des soldats et des policiers katangais. Pendant 4 heures, il a encore été maltraité et il y a beaucoup de témoignages qu'il a été torturé. Et finalement, je crois, après 5 heures, On l'a transféré en brousse et on l'a exécuté.
L'homme fort à Léopoldville, c'est aujourd'hui le président Kasavubu que le colonel Mobutu était venu accueillir à son retour de New York.
Actualité française.
Où l'ONU a reconnu son pouvoir.
7 décembre 1960.
Soldats en armes pour lui faire accueil et foule enthousiaste sur le chemin qui l'a conduit en ville. C'était aussi des soldats en armes qui attendaient M. Lumumba dans ce même Léopoldville, mais dans une atmosphère toute différente. Arrêté alors qu'il tentait de gagner Stanleyville, l'ancien président du Conseil est désormais aux mains de ses adversaires.
Donc, il va gouverner quand même très peu de temps entre ce 30 juin 1960 et sa mort. Nous sommes là sur le lieu où il a été assassiné avec ses deux confrères. C'est quelques mois, quoi, finalement.
Oui, je crois que si ma mémoire est bonne, c'est 66 jours.
Katanga.
Le 5 juillet, le général Yansens va provoquer la mutinerie de l'armée congolaise.
Professeur Guillaume Kongolo.
On prend ça comme prétexte pour dire que donc le pays devient ingouvernable et c'est Lumumba qui est à la base de ces troubles. Alors que l'on sait que les Belges, il faut aussi les comprendre, ils ont investi au Congo.
Ah oui.
Ils s'imaginent mal que tout ce qu'ils ont investi là, que ça bascule d'un jour à l'autre et que ça soit les Congolais qui le prennent. Et en plus de cela, il fallait nécessairement un plan de continuation, s'il faut le dire ainsi, des mainmises du groupe financier belge sur l'économie du Congo, même au-delà de l'indépendance. Et c'était ça le contexte, en fait. Les Belges, ou surtout les propriétaires du Congo, c'est-à-dire les groupes financiers belges, ne pouvaient pas accepter qu'ils laissent tomber ce gâteau, comme ça, du jour au lendemain. Ce qui fait que lorsque l'indépendance est proclamée, le 30 juin 1960, 14 jours seulement après, le plan d'écarter Lumumba du pouvoir était déjà concocté. Un coup d'État qui était préparé pour l'écarter du pouvoir et afin de placer les Congolais qui étaient de nature à pouvoir coopérer.
Les bons Congolais.
Les bons Congolais, voilà. Il fallait écarter les mauvais Congolais du pouvoir pour mettre les bons Congolais. Et voilà comment, à partir de ce moment-là, même un budget est mis de côté, 50 millions de francs belges, pour toutes les opérations qui devaient conduire à ce coup d'État. Donc voilà comment tout devait être mis en branle pour arriver à cette élimination définitive de Lumumba qui devait se faire en deux temps. D'abord, l'élimination politique et après, l'élimination physique.
Vous évoquez les Belges, mais il y a aussi la CIA qui va être dans le coup.
Oui, la CIA est dans le coup en tant que superpuissance, superviseur du camp capitaliste. Et se considérer comme devant prendre le relais de la domination belge au Congo, qui était, il faut le dire, une colonie internationale. Vous connaissez ce statut du pays. Et à ce titre-là, les États-Unis devaient prendre le relais. Et en février 1960, lorsque le Congolais s'occupe de la table ronde politique, mais la CIA a envoyé ses agents à Bruxelles pour chercher déjà à monter l'homme fort qui devait diriger le pays en faveur du camp de la liberté, du camp capitaliste. Et lorsqu'ils ont tenu leur réunion, les services secrets belges et les services secrets américains, M. Develin, qui est un agent de la CIA, qui va être même le chef de poste de la CIA à Léopoldville, qui est sur place, il a dit, puisque les bandes vidéo circulent, où il les déclare lui-même, que lorsqu'ils sont dans la réunion, il y a un seul nom qui circule, celui de Mobutu. Donc, ces jours-là, que le transfert, à peu près, de la prise en charge de l'ancienne colonie belge par les États-Unis s'est opéré. Et à ce titre-là, les États-Unis devaient assurer, sans doute de connivence avec les Belges, cette opération qui devait conduire à éliminer les mauvais Congolais afin de le remplacer par un bon Congolais. Donc, ce qui fait qu'il y aura des complots qui seront concoctés indépendamment des complots belges, il y aura des complots américains et finalement, la partie belge qui va arriver à éliminer Lumumba.
Alors, quand et comment la fin de Lumumba? Racontez-nous la fin de Lumumba.
La fin de Lumumba, il faut dire d'abord que déjà, lorsque le monsieur, lui, se trouve arrêté à Léopoldville, la décision est prise de son élimination physique. La décision, je dois le souligner, est prise à Bruxelles par Gaston Hiskens, le Premier ministre, et le ministre des Affaires africaines, Harold Desmond Linden. Ils envoient l'instruction à leur réseau. Voilà comment, à partir du 17 janvier 1961, lorsqu'on décide finalement qu'il fallait que Lumumba soit éliminé, pour que les services secrets belges et américains ne puissent pas être mouillés dans cette affaire, il faut faire exécuter les choses au travers de prête-main congolais. Mmh. Et on donne l'instruction aux pilotes belges de faire cap sur Elisabethville. Et on charge Kazavubu d'essayer de convaincre Tshombe qu'il puisse accepter ce qu'on appelait les trois colis à l'époque. Et c'est ainsi
les trois colis.
Les trois colis, c'est comme ça qu'on appelait les trois prisonniers. Il y aura un cortège de quatre voitures américaines et deux jeeps. Voilà comment on va les exécuter en ces lieux. Et on va les prendre, les jeter dans une fosse commune qui était déjà préparée par 17 militaires qu'on avait envoyés avant pour venir préparer le terrain et creuser la fosse commune. Donc c'était comme cela qu'on va les exécuter en cette nuit-là, en ces lieux.
L'assassinat de Patrice Lumumba il y a 50 ans. Merci à tous. C'était un reportage avec Guy Vanctil. La suite demain. Toutes les informations sont sur le site de France Inter à la rubrique émission de la BASU. J'y suis. Sandrine Laurent et Philippe Duclos étaient à la technique aujourd'hui. Koyen Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot et Marina Touyez. Attends vos messages au répondeur de la BASU. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
France Inter et la MC93 Bobigny présentent jusqu'au 23 janvier Oncle Vania. Reprise de l'un des succès des 25 ans du répertoire de Lev Dodin, qui, fidèle à Tchekhov, a axé sa mise en scène sur la passion de la vie. Retrouvez Oncle Vania dans les émissions de France Inter.
Demain, 15h, dans la basse où j'y suis, la suite. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
Tapis rouge pour le président chinois Hu Jintao à Washington. Il vient d'être accueilli en grande pompe à la Maison Blanche avec garde d'honneur et hymnes nationaux par son homologue américain Barack Obama. Une visite chargée de symboles pour les deux plus grandes puissances mondiales, à la fois concurrentes et partenaires économiques. Lors de son discours d'accueil, Barack Obama a affirmé que les deux pays avaient un intérêt énorme à réussir mutuellement. Il a rappelé que les pays prospèrent quand les droits universels sont respectés. Les deux hommes doivent annoncer aujourd'hui la conclusion d'un accord sur la construction d'un centre de formation en Chine dédié à la sécurité nucléaire. Il s'agit notamment d'aider la Chine à mieux protéger ses ressources nucléaires. Selon un comptage effectué par l'ONU, il y a eu plus de 100 personnes victimes en tout des violences en Tunisie au cours des 5 dernières semaines. C'est ce qu'indique Navi Pillay, la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Un chiffre qui prend en compte les suicides de protestation et les victimes des émeutes dans les prisons. Et puis la Tunisie ouvre une enquête judiciaire pour acquisition illégale de biens et placements financiers illicites à l'étranger contre le clan Ben Ali. L'enquête vise nommément l'ancien chef d'État et la famille de sa femme, Leila Trabelsi. La Suisse vient de décider de bloquer tous les fonds éventuels de l'ex-président tunisien et de son entourage afin d'éviter tout risque de détournement. De son côté, la Banque centrale de Tunisie affirme que son stock d'or n'a enregistré aucune variation, démentant ainsi les informations selon lesquelles la famille Ben Ali aurait fui la Tunisie avec une tonne et demie d'or. Après Michel Charras, c'est au tour du député communiste Maxime Grémetz de révéler qu'il a pris du Mediator, et ce pendant 15 ans. Mais contrairement à l'ancien ministre socialiste, Maxime Grémetz a décidé de porter plainte contre les laboratoires Servier. Il ne demande rien pour lui, mais affirme vouloir aider tous ceux qui ont déposé plainte pour que l'on n'enterre pas l'affaire. Pas question de vendre l'hôtel de la Marine à Paris, assure Nicolas Sarkozy. Le lancement d'un appel d'offres pour céder la gestion de ce bâtiment historique du XVIIIe siècle à des investisseurs privés avait suscité l'émoi des historiens et des défenseurs du patrimoine. Un des candidats à la reprise envisageait notamment de transformer le bâtiment en un ensemble de commerces et de suites de très grand luxe. Ils ont apparemment été entendus. Le président de la République annonce la nomination d'une commission indépendante pour déterminer la meilleure utilisation de l'hôtel officielle de la marine après le déménagement en 2014 de l'état-major de la marine nationale. Un G20 sur la protection des droits d'auteur sur Internet. C'est une proposition de Nicolas Sarkozy alors que la France assure cette année la présidence du G20. Il s'agit de mettre sur la table une question centrale, celle de l'Internet civilisé, a dit le président de la République lors de ses vœux au monde de la culture. Et puis malgré le téléchargement illégal, il y en a qui ne s'en sortent pas trop mal. Yannick Noah, David Guetta et Mylène Farmer, c'est le palmarès des chanteurs ou musiciens les mieux payés en France, avec des revenus entre 3 et 4 millions d'euros par an, un podium établi par le magazine Challenge et le cabinet Weave.
Tous les jours.
Bienvenue dans le Fou du Roi.
À partir de 11h.
Le Fou du Roi.
Stéphane Bern.
Pour assister au prochain Fou du Roi en direct du studio 106 avec André Dussolier, Nils Arestrup et Philippe Delerme, rendez-vous demain jeudi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
On kiffe, on surkiffe, oui.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi. Stéphane Bern.
Ben oui.
Tous les jours sur France Inter. À partir de 11h.
France Inter et l'Athénée Théâtre Louis Jouvet présentent du 20 janvier au 5 février Caligula. Sadisme, désespoir, quelles sont les vraies raisons qui poussent Caligula à terroriser sa cour? Stéphane Olivier Bisson a choisi la version primitive du texte d'Albert Camus pour son caractère ambigu et extrême et offre à Bruno Puzzulu ce rôle de toutes les démesures. Retrouvez Caligula dans les émissions de France Inter.
France Inter.
La différence.
16h05 sur France Inter, l'heure du carrefour de l'Odéon. Et Frédéric L'Odéon est en très bonne compagnie aujourd'hui.
Et
bonjour
oui,
Frédéric.
Nathalie Dessay, bonjour à tous.
Carrefour de l'Odéon.
Merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir, je l'ai dit à l'instant, avant le générique, de recevoir Nathalie Dessay, un monument national, j'ai envie de dire plutôt comme les Japonais d'ailleurs, un trésor national vivant. Bonjour Nathalie.
Bonjour Frédéric.
Elle se méfie, qu'est-ce qui va venir derrière? Non, rien du tout, c'est de la pure affection et admiration en plus, c'est ça. Donc alors, vous êtes venu et pourtant vous chantez en ce moment Jules César à l'Opéra Garnier, on le sait. Donc c'est fatigant, je me dis, quand on invite une chanteuse, les chanteurs aussi, c'est pas sexiste que je dis du tout, on se méfie. Est-ce qu'elle va venir ou est-ce qu'il va venir? Et vous, chaque fois vous êtes venu, et comment ça
chose
se fait?
Parce que promise, tous, chose due.
Vous toussiez un petit peu tout à l'heure, vous avez dit, dans toute la distribution, il y avait une sorte de trachéite.
Oui,
de...
oui, qui a circulé entre nous.
Oui, mais alors comment, mais il faut du courage, la cortisone, comment on fait
pour résister? Parce que oui, et puis après on met longtemps sans remettre, j'en ai pris une seule fois dans toute ma vie, et oui. Ça s'est très mal passé. Donc maintenant, plus de cortisone, alors on fait des aérosols,
on prend du
solaci, on prend des antibiotiques, on se repose, on essaye de pas trop parler, de pas trop téléphoner. Non mais avec vous, je sais que vous passez beaucoup de musique.
Vous êtes ici et c'est une faveur pour nous justement parce que c'est entre deux.
Mais j'ai l'impression d'être dans le poste. Moi je vous écoute tous les jours, j'écoute France Inter tout le temps, donc c'est vraiment très étrange pour moi d'être
ici. Alors ça c'est formidable,
et j'adore.
Parce qu'on vient d'avoir des sondages qui sont bons, hein, on est très contents, c'est bien, on est confortés. Et c'est grâce à vous en partie, parce que vous écoutez même la nuit.
Oui, du matin au soir,
Serge Levaillant, je salue, par exemple, Brigitte Patient, ça va. Et puis cette émission, donc je ne sais pas combien de fois, vous avez déjà 5 fois les Victoires de la Musique, mais vous êtes venu aussi un grand nombre de fois ici. De tout cœur encore, merci beaucoup. Alors le disque, parce que l'opéra c'est déjà plein, hein, Jules César.
Oui, l'opéra c'est à Garnier, donc il n'y a plus beaucoup de place.
Ou plus beaucoup, attention, parce qu'on peut trouver
il n'y a plus de place, mais on peut toujours venir
au dernier moment,
essayer
trouver,
de voir s'il n'y a pas des gens qui ne peuvent pas assister au spectacle et qui revendent leur place au dernier moment, j'espère pas trop cher au marché noir.
Voilà, c'est gentil. Et de toute façon, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on pourra voir et entendre surtout cet opéra opéras, parce qu'il y aura une diffusion au cinéma, c'est le 7 janvier à 19h, donc c'est la dernière...
7 février.
Février, oui. Merci beaucoup, oui, vous êtes plus précise là. Et d'ailleurs, vous aviez dit tout à l'heure, hors micro, que vous alliez peut-être faire de la radio, on sera très intéressant. Vous vouliez faire de la radio. 7 février à 19h, et donc dans les cinémas UGC, 15 cinémas, on pourra voir et entendre Jules César, avec vous-même, parce que c'est votre dernière, après il y a une autre personne qui va vous remplacer. Et je donne tout de suite le site, c'est www.ugc.fr pour avoir l'adresse de ces cinémas.
Et je tiens à préciser que ce sera en direct, donc du Palais Garnier.
En plus, voilà. Nathalie Dessay, on écoute tout de suite un extrait du disque. Je trouve que déjà le texte parle de lui-même. Une jolie femme peut tout si par amour elle entr'ouvre ses lèvres ou tourne son regard.